termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Bon, je vous invite à garder cette Bible ouverte, parce qu'on va revenir souvent dans le texte. Mais avant de débuter, je vais prier. Père Céleste, nous venons à toi. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce psaume. Nous te prions pour les instants qui vont suivre. Veuille bien disposer nos cœurs pour entendre, recevoir ta parole. Et que tu puisses... faire porter du fruit à cette parole en nos cœurs. Père Céleste, nous sommes conscients que nous avons besoin de toi. Nous te confessons notre faiblesse, nous te confessons notre besoin de toi. Et nous avons besoin de toi pour que tu nous transformes, pour que tu nous aides à progresser en toi, progresser dans notre connaissance de qui tu es et de ce que tu as fait. Et par avance, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon épouse me reproche parfois de ne pas l'écouter. Alors, souvent, c'est parce que mon esprit est accaparé par une activité importante. Ce peut être regarder un match à la télé. Ce peut être surfer sur mon smartphone. Le danger des écrans. On en a parlé hier soir entre hommes. Et dans ces cas-là, eh bien, en effet, je passe à côté de ce qu'elle me dit. Et parfois, ce sont des choses importantes que je n'entends pas. Alors, il n'y a pas que mon épouse qui tente de me faire passer un message. Dieu aussi me parle. Dieu nous parle. L'écoutons-nous et que faisons-nous de ce qu'il nous dit? Alors, voilà deux questions que pose ce psaume. Et pour tenter d'y répondre, je vous propose trois temps. Alors, d'abord, nous verrons les versets 2 à 7. Dieu nous parle par sa création. Ensuite, versets 8 à 11, Dieu nous parle par la Bible, sa parole. Et en guise de conclusion, un troisième temps où nous nous poserons la question, quelle doit être notre réaction face à la parole de Dieu, ce seront les versets 12 à 15. Alors commençons par les versets 2 à 7. Dieu nous parle au travers de sa création. Dans ces versets, David nous dit que la nature nous révèle quelque chose de Dieu. Au travers de la nature, de sa création, Dieu nous délivre un message. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Alors je vous propose de relever quatre observations tirées du texte, et après nous essaierons d'en tirer trois implications pour nous. Alors tout d'abord, quatre observations. Ce texte nous donne quatre informations sur le message que Dieu nous adresse à travers la nature. C'est un message essentiel, verset 2, sans parole, versets 3 et 4, universel, verset 5, et enfin un message joyeux, versets 6 et 7. Alors d'abord, le contenu de ce message est essentiel. Relisons le verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. D'emblée, nous voyons que la nature nous révèle trois informations essentielles. Primo, Dieu existe. Tout ce qui nous entoure ne vient pas de nous. Tout ce qui nous entoure vient de quelque chose qui nous dépasse, et ce quelque chose est quelqu'un, Dieu. Alors c'est Blaise Pascal qui disait « Je vois bien qu'il y a dans la nature un être nécessaire, éternel et infini. » Secondo, ce Dieu est glorieux. Ça veut dire que sa personne, son essence même, est tout autre. Un Dieu glorieux, c'est un Dieu infiniment au-dessus de nous, puissant, saint, mais aussi moralement beau. Enfin, dernière information essentielle, ce Dieu glorieux est le Créateur. Il a créé notre univers et tout ce qu'il contient. Les myriades d'étoiles ne sont pas le fruit du hasard, la nature est l'œuvre de Dieu. Alors quand on se retrouve en face d'un tableau, dans un musée, on sait qu'il y a un peintre derrière cette peinture. On ne se pose même pas la question. C'est une évidence. Eh bien, il devrait en aller de même avec la nature. La nature est une œuvre d'art signée Dieu. Un message essentiel, et pourtant, un message sans parole. Relisons les versets 3 et 4. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. La nature délivre en continu, jour et nuit, un message visuel et non verbal. Alors la deuxième partie du psaume va parler de la révélation verbale de Dieu. Mais le psalmiste commence par la révélation visuelle de Dieu. Cet aspect est intéressant, je pense, pour notre société, puisque dans notre... En tout cas, dans notre société occidentale moderne, nous sommes dans une société de l'image. Et donc, cette révélation visuelle devrait particulièrement nous toucher, nous parler. Et pourtant, force est de reconnaître que nos contemporains ne semblent pas très sensibles à cette révélation visuelle. Alors peut-être que nos médias, nos écrans, accaparent trop nos regards, même si bien souvent, via les écrans, on peut souvent aussi admirer la nature avec de superbes émissions sur la beauté du monde sauvage, des animaux, de l'univers, etc. Mais bon, il faudrait peut-être parfois s'arracher à nos écrans pour observer la nature. Regarder le message visuel de Dieu plutôt que les anges de la télé-réalité. Peut-être aussi devrions-nous avoir un regard moins passif. Adopter un regard d'observateur, c'est-à-dire un regard qui cherche le sens, un regard qui cherche le message derrière l'image. Alors d'autant plus que nous avons tous accès à ce message divin à travers la nature. Car c'est un message universel, troisième observation. Alors là c'est le verset 5. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Alors le message de Dieu au travers de la nature est disponible pour tous, toutes et tous. Alors géographiquement, qu'on soit dans les Alpes, dans les plaines de Mongolie, devant les chutes d'Iguassou ou dans le désert australien, Camilla, désert australien, eh bien aussi on peut dire temporellement, parce que ce soit Ramsès II, Jules César, Napoléon ou Justin Bieber. Justin Bieber, c'était pour Toby, mais je crois qu'il n'est pas là. Dommage. En tout cas, tous ces grands hommes ont contemplé les mêmes étoiles, ont été éblouis par le même soleil, impressionnés par la force des tempêtes. Nous sommes tous égaux face à ce message, mais donc aussi tous responsables. Un message essentiel, sans parole, universel, et enfin, un message joyeux. Donc là, c'est les versets 6 et 7. Je les relis. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Ça, c'est intéressant. Parce que David a déclaré que la nature révélait la gloire de Dieu. Cela pourrait donc nous terrifier. Nous écraser ? Mais non. David enchaîne avec une envolée lyrique, poétique, qui exprime la joie. La gloire de Dieu est une chose heureuse. Et il l'illustre par la joie du jeune marié. La création doit nous impressionner, mais elle ne doit pas nous apeurer. La nature est belle et cela doit réjouir notre cœur. Alors venons-en maintenant aux implications. J'en relèverai trois. Croire, adorer, admirer. Croire, adorer, admirer. Croire tout d'abord. Au travers de sa création, Dieu nous appelle à croire. Croire en son existence, croire qu'il est le créateur de toutes choses, croire aussi qu'il est un Dieu glorieux. La nature est un appel à la foi. Elle est un panneau indicateur qui pointe vers Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous n'avons pas été engendrés par le néant, mais par Dieu. Alors c'est le biologiste Edwin Conklin qui a déclaré « La possibilité de l'origine accidentelle de la vie est comparable à la possibilité de la création d'un dictionnaire comme résultat de l'explosion d'un atelier d'imprimeur. » Seconde implication, adorer. Une fois que nous avons reconnu en Dieu le créateur de toutes choses, nous devrions vouloir adorer ce Dieu glorieux et le remercier. Et là, attention, c'est bien le créateur que nous devons adorer, et non sa création. Nous l'avons dit, la nature n'est qu'un panneau indicateur qui pointe vers Dieu. Nous suivons cet indicateur jusqu'à son auteur, et nous l'adorons lui. Alors attention, nous respectons la nature, mais nous ne l'adorons pas. Nous ne sommes pas des panthéistes du New Age ou de la deep écologie. Dieu n'est pas la nature et la nature n'est pas Dieu. Enfin, dernière implication, admirer. La nature ne révèle pas seulement l'existence d'un Dieu créateur, elle nous donne un aperçu aussi de ses attributs, de ses qualités. Et nous sommes appelés à admirer ses qualités divines. Alors plusieurs attributs de Dieu peuvent se discerner au travers de la création, je n'en citerai que trois. D'abord la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors je suis nul en technique hein, et en science, mais bon, il faut savoir qu'un joule, ça sert à quantifier l'énergie. Bon. Alors sachez que le flash d'un appareil photo, c'est 12 joules. Et pourtant ça nous aveugle déjà. Hiroshima, c'est 10 puissance 13 joules. Donc 10 suivi de 13 0 joules. Eh bien, une supernova, ne serait-ce qu'une supernova, c'est-à-dire une explosion d'étoiles, c'est 10 puissance 44 joules. Un autre chiffre que je vous donne, c'est que le diamètre de l'univers observable, ça va bien au-delà, mais l'univers observable, c'est 100 milliards d'années-lumière. Et alors, une année-lumière, j'ai appris que c'était 10 000 milliards de kilomètres. Donc 100 milliards de fois 10 000 milliards de kilomètres. Eh bien, disons-nous que Dieu est infiniment au-delà de tout cela, sa puissance. Secondo, son ordre. La création tout entière est régie par des lois. Alors, on a parfois une impression de chaos, mais non. Alors un jour, en vacances dans les Cévennes, j'étais avec un ami ingénieur en mécanique et on se prélassait au bord d'un torrent. Et alors moi, je voyais l'eau qui bouillonnait, qui tourbillonnait entre les pierres. Et tout cela me semblait complètement aléatoire et chaotique. Et j'ai eu le malheur de dire quelque chose comme « Oh là là, qu'est-ce que c'est le bazar dans un torrent ?» Et alors cet ami, l'intérêt hein, de partir en vacances avec un ingénieur, cet ami m'a appris qu'il existait une mécanique des fluides, que ce torrent obéissait à des règles, à des cycles, et que, en théorie, il était même possible de le mettre en équation, en formule mathématique. C'est le même principe que pour les prévisions météorologiques. L'ordre. Enfin, l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Je pense que la création nous appelle, nous rappelle inévitablement l'éternité de Dieu. Nous l'avons dit, Dieu est le créateur. Cela signifie qu'il n'est pas dans la création. Il a toujours existé, de toute éternité. Et je pense que c'est vraiment stupéfiant de penser que Dieu n'a pas eu de commencement. Alors nous sommes devenus ce que nous sommes. Des gènes, de l'instinct, de l'éducation, de l'expérience, parfois un peu de volonté, ont fait ce que nous sommes. Dieu, lui, il est amour, il est saint, il est bon, il est fidèle, juste, etc. Mais il n'est jamais devenu comme cela. Personne ne lui a appris à devenir comme cela. Il n'a jamais changé, il n'a jamais mûri. Il a toujours été celui qui est je suis celui qui suis. Et ça, je pense que c'est rassurant pour nous qui avons en lui un Père céleste. Parce que nos faiblesses, nos chutes, ne le changent pas. Et ne changent pas le fait qu'il nous a choisis, le fait qu'il nous aime, ni sa volonté pour nous. Mais pour vraiment connaître notre Dieu, nous avons besoin de davantage que la nature. Et c'est notre seconde partie. Versets 8 à 11. Dieu nous parle au travers de la Bible. La révélation générale au travers de la nature n'est que partielle. Et comme cela a été rappelé en début de culte, elle est aussi marquée par le péché. Dieu se révèle parfaitement au travers de sa parole, la Bible, aussi appelée révélation spéciale. Alors je vous invite à relire les versets 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Alors là, on va un peu travailler, on va projeter un tableau que vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je vais essayer de l'expliquer. Alors, les versets 8 à 10, vous l'aurez peut-être remarqué, ont la même structure. Chacun de ces versets comporte un triptyque. Sujet, qualificatif ou attribut, effet. Exemple, verset 8. Premier triptyque, la loi de l'Éternel, le sujet, est parfaite, le qualificatif. Elle donne du réconfort, l'effet. Deuxième partie de ce verset, c'est le deuxième triptyque. Le témoignage de l'Éternel, le sujet, est vrai, le qualificatif. Il rend sage celui qui manque d'expérience, l'effet. Alors, cette structure n'a pas été choisie par hasard. Elle vise à montrer le caractère essentiel, central, déterminant de la parole de Dieu. Tout découle de la parole de Dieu. Alors, je vous propose de relever brièvement trois éléments. Nous allons voir que par sa parole, Dieu entre en relation avec nous. Ensuite, par sa parole, Dieu nous dévoile ses perfections. Et enfin, par sa parole, Dieu nous transforme. Premier élément, par sa parole, Dieu entre en relation avec nous. Le Dieu de la création devient un Dieu personnel dans cette seconde partie du psaume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la première partie, le nom de Dieu n'apparaît qu'une seule fois, au verset 2. Et il est désigné par Dieu, un mot générique. Tandis que dans cette seconde partie, le nom de Dieu apparaît 6 fois en 3 versets. Comme si le psalmiste martelait ce nom. Et désormais, il utilise le nom éternel. C'est-à-dire le nom du Dieu qui se révèle à Abraham, à Moïse. Le nom du Dieu de l'Alliance. Le nom du Dieu qui entre en relation. Le Dieu de la nature est lointain, inaccessible, infiniment au-dessus de nous. Mais dans les versets 8 à 11, il n'en va pas de même. Alors Dieu est toujours infiniment au-dessus de nous. Mais le Dieu de l'Alliance vient à la rencontre de son peuple. Il se fait connaître, il révèle qui il est réellement. Et il le fait par sa parole. Vous aurez noté à chaque fois, le sujet désigne la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, le témoignage, les décrets, les commandements, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire cette crainte qui est la conséquence que produit sur l'homme la lecture de la loi, les jugements. Le Dieu créateur entre en relation avec nous et il choisit sa parole pour le faire. Deuxième élément, toujours au travers de sa parole, Dieu nous dévoile ses perfections. Alors ces perfections, eh bien, sont décrites par les qualificatifs attachés à la parole. La parole de Dieu nous dévoile les attributs de Dieu. Et donc, ces versets nous disent que Dieu est parfait, vrai, droit, clair, pur, digne de confiance. Alors, c'est intéressant de noter que ce sont des qualités qui ne sont pas révélées par la création, justement. Par sa parole, Dieu révèle ses perfections morales. Et on est loin des petits dieux de l'Antiquité avec leurs humeurs, leurs faiblesses. On est loin des divinités païennes, parfois méchantes, souvent vindicatives. Et la conséquence de tout cela est logique, c'est le troisième élément. Ce Dieu parfait qui entre en relation avec son peuple le transforme. Le Dieu de perfection agit sur son peuple. Et comment le fait-il ? Toujours par sa parole. Dieu nous bénit par sa parole. On voit ici qu'il donne du réconfort, il rend sage, il réjouit le cœur, il éclaire les yeux et il nous rend fidèles à sa personne. Alors si vous êtes comme moi, vous avez peut-être du mal à vous discipliner dans la lecture de la Bible. Eh bien, souvenons-nous de cela. La parole est l'agent actif de l'action de Dieu en nous et sur nous. Alors le matin, c'est souvent pressé. On a du mal à s'arracher au lit et si on parvient à s'arracher au lit, on est dans un état qui nous rend un petit peu difficile le fait de se motiver pour lire la Bible. Alors comment nous motiver pour lire la Bible ? Eh bien, par exemple, en nous souvenant que lorsque je lis la parole de Dieu avec foi, je trouve réconfort et joie, versets 8a et 9a. Et j'en ai besoin parce qu'il y a des mauvais jours. La vie chrétienne n'est pas toujours triomphante. Il y a des jours sans, il y a des déserts, des luttes, des souffrances, des doutes. La joie de la foi est un combat. Et dans ce combat, la parole de Dieu est essentielle. Autre exemple pour me motiver à lire la Bible. Lorsque je lis la parole de Dieu avec foi, je trouve sagesse et clairvoyance. Versets 8b et 9b. La parole peut nous éclairer sur nos fautes. Elle est aussi notre mode d'emploi. C'est notre fabricant qui nous la donne pour nous révéler à quoi nous servons, comment nous devons fonctionner. Elle est pertinente dans tout ce que nous vivons. Elle juge nos sentiments, nos pensées, mais elle éclaire aussi nos choix. Alors il est temps de conclure. Alors le verset 12 marque un tournant dans ce psaume. Après s'être focalisé sur le Dieu créateur, puis sur le Dieu de la révélation, l'auteur passe à la première personne du singulier. En fait, ce psaume fonctionne un peu comme un zoom. D'abord, on commence par un plan large, la nature. On resserre sur la révélation spéciale avec la parole. Et enfin, on se focalise sur une personne. Quelle sera la réponse du serviteur ? Quelle sera notre réaction ? Je vous invite à relire les versets 12 à 15. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Alors je pense qu'on peut discerner trois réactions successives dans ces versets. D'abord la volonté d'être juste, verset 12, mais notre incapacité à l'être, versets 13 et 14. Et enfin, la nécessité de trouver refuge en Dieu, verset 15. La révélation de Dieu est un appel à la soumission. Nous soumettre au Dieu créateur, nous soumettre à sa volonté exprimée dans sa parole. Telle est la réaction attendue de Dieu. C'est le verset 15. Mais cette réaction en induit une autre. Parce qu'après avoir contemplé la création de Dieu, après avoir médité sur ses perfections dans la loi, David tourne les regards sur lui-même. Et là, le choc est violent, versets 13 et 14. Face aux exigences morales du Dieu glorieux, il se sait pécheur. Il reconnaît sa faillite spirituelle. Le psalmiste se confesse et il s'humilie. Et cela l'amène à la troisième et dernière réaction, se réfugier en Dieu. Au verset 15, David se confie en Dieu. On pourrait même dire qu'il s'offre en sacrifice parce qu'il utilise un langage sacrificiel, fait bon accueil, reçoit favorablement. David ne peut se prévaloir de rien d'autre pour être juste devant Dieu. Le rachat est en Dieu seul. Alors qu'en est-il pour nous ? Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Mais en fait, ce psaume déjà nous parle de Jésus-Christ. Nous avons dit d'abord que Dieu nous parle par sa création. Mais Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Voici ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean à propos de Jésus. « La parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus, le Créateur. Nous avons dit ensuite que Dieu nous parle par la Bible, par sa parole. Mais Jésus-Christ est la parole faite chair. Toujours le prologue de l'évangile de Jean. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus, la parole faite chair. Enfin, nous avons terminé en voyant notre besoin de rachat. Fin du verset 15, « Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. » Mais Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il ne se contente pas de nous parler, de nous révéler parfaitement Dieu. Toujours le chapitre 1 de l'évangile de Jean, on y lit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alors, écoutons le Christ. Soumettons-nous à sa volonté. Offrons-lui nos vies en sacrifice. Et face à nos faiblesses, face à nos péchés, confessons-lui nos fautes et recevons son pardon. Je vais prier. Père Céleste, nous voulons te louer. Tu es notre Créateur. Nous te devons la vie et l'être. Tu es un Dieu glorieux qui mérite toute notre adoration. Et loué sois-tu, car tu n'es pas resté loin de nous. Tu es un Dieu qui se plaît à se révéler à ses créatures. Non seulement à se révéler, mais aussi à entrer en relation avec nous. Merci pour ce que tu nous donnes de voir de toi dans la création. Merci pour ta parole qui nous dit qui tu es, ce que tu as accompli. Merci enfin pour ton Fils, lui l'image parfaite du Dieu invisible, lui qui nous révèle ta volonté, lui qui a accompli notre salut et nous a réconciliés avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.